Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupe ton EHPAD. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un épisode que je dirais hors série, puisque je vais vous partager un peu l'expérience que j'ai vécue à la journée au congrès de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant, voilà, de vous partager un petit peu les présentations orales qui m'ont intéressée, les posters qui m'ont parlé et aussi les stands que j'ai pu découvrir et de pouvoir voilà, vous faire un petit résumé de ces éléments-là. Au niveau des présentations orales auxquelles j'ai pu assister, il y a deux présentations de la Fondation Médéric Alzheimer que j'ai trouvées intéressantes. Donc, il y a une première présentation qui présentait les habitats inclusifs pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, où en fait la Fondation a créé des colocations pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ils ont présenté un petit peu les opportunités autour de la qualité de vie donc des personnes accompagnées et des aidants et autour des freins aussi qu'ils ont pu identifier. Donc des freins financiers parce que c'est un dispositif plus cher que les EHPAD, des freins en termes d'inclusion des personnes puisque ça nécessite l'accompagnement d'un aidant de façon un peu plus importante puisque c'est le proche aidant qui va gérer la partie un peu parcours de soins. Les freins en termes d'aggravation aussi des personnes dans ces habitats et la question aussi du décès qui a plus d'impact pour les cohabitants, les colocataires en fait de ces résidents-là. Donc c'était vraiment intéressant et là ils vont mener une étude un peu plus quantitative puisque là pour l'instant ils n'ont que des retours qualitatifs sur ce type de colocation. Qui existent. Donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu sur leur site web que je mettrai en barre d'informations. La seconde présentation de la Fondation Médéric Alzheimer qui m'a intéressée, c'était sur l'impact d'une activité de tai chi sur la relation aidant-aidé. Donc ce qui m'a intéressée, c'est que donc c'était un psychologue de la Fondation qui a réalisé cette recherche et il est parti du principe que la relation aidant-aidé changeait à l'entrée en EHPAD et qu'elle pouvait notamment se dégrader. La première chose qui m'a interpellée sur cette recherche, c'était qu'il n'a pas trouvé d'évaluation des relations sociales en français. Donc il y a des évaluations sur les relations qui existent en anglais, mais pour évaluer la qualité de la relation entre deux personnes, il n'en a pas trouvé en français. Donc c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de traduire ou de construire et même d'utiliser en ergothérapie. Ensuite, il a mis en avant ce besoin de proposer des ateliers qui incluent les proches aidants au sein des EHPAD. Et donc, ça m'a fait penser un peu au concept de co-occupation. Et moi, c'était une thématique qui me parlait beaucoup quand j'étais ergothérapeute, où je voyais bien que les aidants ne savaient pas vraiment quoi faire et s'approprier aussi l'espace de vie des EHPAD. Et que donner cette opportunité de pouvoir participer à une activité en même temps que son proche qui est en EHPAD, c'est quelque chose que je pense très, très intéressant. Et il a relevé que pour mettre en place cette recherche qui n'a pas très bien fonctionné à cause de différents facteurs de motifs organisationnels, qu'il avait eu quelques freins de la part des EHPAD, notamment parce que ces activités se passaient le matin et que certaines EHPAD ne voulaient pas que les aidants s'habituent à venir le matin rendre visite à leurs proches. Et ça m'a vraiment interpellée et questionnée sur pourquoi les aidants n'auraient pas cette liberté-là de pouvoir visiter spontanément en fait les personnes qui sont en institution et qu'en créant un petit peu ce cadre institutionnel rigide, on participe un peu aussi à la dégradation de cette relation parce que c'est déjà difficile, je pense, pour un aidant de faire tout ce qu'il a à faire au quotidien si en plus il a une contrainte supplémentaire pour visiter son proche. Ça va être un frein supplémentaire à cette relation aidant-aidé. Donc voilà un petit peu pour les deux premières présentations orales. Ensuite, il y a une présentation du docteur Bonin-Guillaume qui est à Marseille qui m'a beaucoup intéressée sur la typologie du patient fugueur. Est-ce qu'on peut repérer les patients fugueurs avant qu'ils ne fuguent? Et donc, elle a mené une recherche sur plusieurs EHPAD en étudiant un peu les caractéristiques des patients qui avaient fugué pour faire un profil en fait de quel type de patients vont plus avoir tendance à fuguer. Donc, dans ce qui ressort et ce qui va pas vous étonner, je pense. Les patients fugueurs, ça va plutôt être des patients qui ont des troubles cognitifs et des troubles du comportement aberrants et qui ont des antécédents de chute. Les patients fugueurs, ça va aussi surtout être les patients qui sont entrés il y a moins de 3 mois. Donc ça, cette donnée, elle est intéressante. Ça veut dire que il va falloir peut-être être plus vigilant ou avoir un accompagnement plus approprié sur les premiers mois de l'entrée en EHPAD. Et peut-être qu'une des causes c'est l'orientation dans le temps, l'appropriation des lieux de vie, la transition entre le domicile ou en tout cas l'ancien lieu de vie et l'EHPAD, et que c'est peut-être un moment à soigner un peu plus pour éviter cette fugue en fait qui peut être dangereuse pour la personne. Et enfin, le dernier critère qui représentait les patients fugueurs, c'était que ces patients-là, majoritairement, ils étaient dans des EHPAD qui avaient des dispositifs de sécurité. Pas que forcément des unités vides protégées, mais des dispositifs de sécurité en général. Et donc ça, c'est intéressant de se dire que les patients qui fuguent sont dans des EHPAD qui ont des dispositifs de sécurité. Alors évidemment, on dit que le profil, si on a une personne qui a tendance à une désorientation temporelle, on va avoir tendance à vouloir, en tant que proche, la placer dans un endroit où il y a des dispositifs de sécurité. L'autre hypothèse qui était mise en avant, c'est que s'il y a des dispositifs de sécurité, peut-être que les personnes vont chercher davantage en fait à chercher la liberté en fait finalement, et aussi l'hypothèse que avec ces dispositifs de sécurité mis en place, est-ce qu'il n'y a pas un relâchement de la tension au niveau des professionnels? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui serait à étudier. Ce sont les 3 hypothèses pour expliquer pourquoi les EHPAD qui ont des dispositifs de sécurité ont davantage de patients qui fuguent. Et du coup, là, ce docteur, donc le docteur Bonin Guillaume, est en train de travailler sur la création d'un score de risque de fugue qui serait à faire passer en fait lors de l'entrée dans une institution ou même à domicile. Donc, j'ai trouvé que c'était un travail qui était intéressant et qui a à suivre en tout cas nous en tant qu'ergothérapeute en EHPAD. La dernière présentation orale dont je voulais vous partager les résultats, c'est j'espère que je vais bien le prononcer, le docteur Rambogin Prayag, donc qui est en train de faire sa thèse à Tourcoing et qui a fait une recherche qualitative sur les freins à l'inclusion des personnes âgées dans la recherche aujourd'hui. Elle a constaté qu'il y a pas mal de domaines de recherche où on ne parle pas des personnes âgées. Elle voulait comprendre pourquoi les personnes âgées n'étaient pas incluses dans les recherches. Donc, ce qui est mis en avant, c'est déjà du fait des caractéristiques des personnes âgées qui vont être fatigables, avoir des troubles cognitifs et troubles de la compréhension, ça ne va pas faciliter leur inclusion dans les recherches. En plus de ça, les évaluations lourdes et parfois les consultations multiples demandées par les recherches va faire que ça va être difficile d'inclure les personnes âgées. Qui vont peut-être se présenter à la première consultation, mais qui après finalement vont abandonner le suivi. Après, elle a remis en cause aussi dans ses résultats la communication, un manque d'information et surtout de vulgarisation de la communication, et la communication qui donne une sensation d'être un peu un cobaye pour les personnes âgées dans ses recherches. Et enfin, elle a remis en cause un peu l'attitude des chercheurs qui vont d'eux-mêmes pas forcément chercher à inclure les personnes âgées parce que ce sont, il y a des critères un peu trop contraignants. Donc, on parlait de troubles cognitifs, fatigabilité. Et donc, ça, elle l'a rattaché un peu à de l'âgisme. Elle a dit que ce qui facilitait l'inclusion des personnes âgées, ça allait être une information précoce au niveau de la recherche et la présence d'un aidant, d'un proche aidant, pour pouvoir faciliter le lien et la transmission des informations. Donc ça, du coup, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. Et il y a beaucoup de présentations qui se sont faites lors de la SFGG qui mettaient en avant, on sait pour les enfants, on sait pour les adultes, mais les personnes âgées, ça n'a jamais été étudié. Donc voilà, de s'intéresser un peu plus aux personnes âgées et de ne pas partir du principe, bah, c'est une personne âgée, donc on ne s'en occupe pas. Donc ça, c'était un petit peu voilà les choses importantes que j'avais envie de vous transmettre sur les présentations orales. Après, j'ai aussi vu quelques posters que j'ai trouvés intéressants. Un premier poster de Nadine Simo qui est à l'Université des Antilles, qui s'est intéressée aux personnes âgées ou ressentant un sentiment de solitude. Et donc elle est partie du constat que c'était important de pouvoir évaluer l'isolement des personnes âgées et leur sentiment de solitude parce qu'il y a un risque plus élevé de morbi-mortalité. Et pour ça, elle a été étudiée dans tous les articles scientifiques en faisant des recherches sur des bases de données. Est-ce qu'il y avait des outils d'évaluation de la solitude et de l'isolement qui étaient utilisés? Donc, je trouvais ça intéressant en tant qu'ergothérapeute, vu que nous, on est très attachés aux rôles sociaux, aux liens sociaux, à tout ce qui est co-occupation, de savoir est-ce qu'il y a vraiment des outils pour évaluer ça. Et donc, le résultat de sa recherche met en avant que les deux outils qui sont plus fréquemment utilisés, c'est l'échelle de la solitude de l'UCLA, donc UCLA, donc pareil, je vous mettrai les informations dans la description de l'épisode, et l'échelle du réseau social de l'UBEN, LUBEN. Donc c'est deux outils, un pour évaluer l'isolement social et un pour évaluer la solitude. Donc pour rappel, la différence entre les deux, isolement social, c'est qu'on n'a pas de proches, de visite de contact avec ses proches autour de nous, alors que solitude, on peut avoir de la visite, mais se sentir seul quand même. Deuxième poster que j'ai trouvé intéressant, qui est une recherche faite par une psychologue, Madame Quinn, au CHU de Nice, et qui est toujours en cours, qui traite cette fois-ci de la sexualité des personnes âgées. Elle veut rechercher quel est l'impact des stéréotypes que l'on peut avoir à l'égard des personnes âgées sur leur santé sexuelle. Et elle veut comparer s'il y a une différence entre la santé sexuelle au domicile et en EHPAD. Et pour ça, du coup, elle a juste dit un peu son protocole de recherche, mais elle a mis en avant quelles étaient ses hypothèses quant aux résultats attendus. Donc elle dit que, d'après ses recherches, en tout cas littéraires, que l'impact des idées reçues sur la sexualité des personnes âgées serait plus importante en EHPAD qu'à domicile, et que les besoins en matière de sexualité vont différer en fonction des lieux de vie. Donc pareil, en tant qu'ergothérapeute, la sexualité, ça fait partie des occupations de la personne. On sait que ça peut faire débat au niveau des EHPAD et que les situations vont être complexes par rapport à ça. Et donc, je trouve que pareil, c'est un thème et une recherche qui va être intéressante à suivre sur cette année. Enfin, le dernier poster dont je voulais discuter avec vous, c'est le poster de Dominique Huvengrel de l'Université de Lille, qui a fait une recherche sur les maltraitances faites aux personnes âgées, avec aussi un comparatif entre les maltraitances du domicile et les maltraitances en institution. Ce qu'elle a pu mettre en avant, c'est qu'il y a des différences significatives entre les maltraitances à domicile et en institution, qu'à domicile, on va davantage avoir des maltraitances psychologiques, physiques et financières, tandis qu'en institution, on va davantage avoir de la maltraitance sous forme de négligence passive et de négligence active. Donc ça pareil, je trouve que c'est une recherche qui est intéressante pour pouvoir remettre sur la table le sujet de la maltraitance, qu'on soit ergothérapeute ou autre professionnel, pour revoir en équipe ce qui est maltraitant, ce qui ne l'est pas, comment on peut éviter la maltraitance, etc. Les personnes qui sont en gros les maltraitants, d'après cette recherche, c'est la famille et les professionnels, avec une augmentation des maltraitances de la part des professionnels depuis 2022, donc selon cette recherche. Et donc ce poster, il fait écho aussi donc à la dernière partie que je voulais vous présenter sur mon retour un peu de cette journée que j'ai passée au congrès de la SFGV. J'ai pu aller visiter aussi les stands. Alors je vous avoue que quand j'ai visité les stands, j'étais un petit peu un ovni là-bas, puisque 80% des personnes étaient des gériatres et que l'ergothérapie, ça ne leur parlait pas trop. Mais j'ai quand même vu deux stands qui étaient intéressants pour les ergothérapeutes ou pour les EHPAD. Le premier stand, c'est Tadéo. Donc Tadeo, Thadeo, qui est en fait une association qui est à l'écoute des soignants, qui est pour en fait avoir une écoute, que ce soit par chat, par mail, par téléphone, de soignant à soignant, autour des situations d'épuisement, d'isolement, de culpabilité, vraiment du quotidien de soignants qui peuvent pas forcément faire face toujours à ce qu'on a sur le terrain. Donc Tadeo, j'ai beaucoup apprécié voilà le stand, et ils ont créé un guide qui s'appelle Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, 8 repères utiles au bien-être du soignant. Donc pareil, je vous mettrai un peu les informations et le contact dans la description, mais je trouve que c'est un moyen facile de pouvoir avoir une écoute quand ça va pas. Et le dernier stand dont je voulais vous parler, c'est Télémédicaire, qui est un service de médecin télécoordonnateur. Donc, dans cette ère du numérique, ère du télésoin, il y a une entreprise là de télécoordonnateurs. En fait, ce sont des médecins coordonnateurs qui vont être engagés par des EHPAD qui cherchent un médecin coordinateur fixe, évidemment, mais qui, pendant le temps de la recherche, vont pouvoir pallier au manque de médecins coordonnateurs. Donc, il suffit de contacter télémédicaire.fr. Et en fonction de votre région, ils vont aller, eux, chercher des médecins coordonnateurs qui vont faire de la télécoordination via de la vidéo sur des temps formels, fixes ou des temps non fixes. Voilà, c'est toute une organisation qui se fait en fonction de chaque EHPAD et en fonction des besoins vraiment des équipes soignantes. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir la possibilité de bénéficier de ce dispositif dans les moments où on a un manque de personnel et qu'on cherche un médecin coordonnateur. Donc ça, pareil, je vous mettrai l'info dans la description. Donc voilà un petit peu mon retour un peu condensé de cette journée au congrès de la SFGG, où voilà, j'ai pu assister à quand même des présentations intéressantes, même pour les ergothérapeutes, à des posters et à des stands aussi. Et je réitérerai, voilà, je pense, l'expérience. Donc, n'hésitez pas à participer aussi à ce type de congrès. On a toute notre place finalement. Il y avait même un sujet sur les sciences de l'occupation à l'EHPAD, l'architecture des EHPAD liées à l'âgisme. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui pouvaient nous intéresser en tant qu'ergo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, si j'ai pas tout bien mis en description, à me contacter. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.